Africa Radio, présenté par Liliane Niacha. Le débat.
Notre invité de cette semaine est Maître Nicolas Tiangaï, ancien Premier ministre centrafricain et président de la Convention républicaine pour le progrès social, parti d'opposition et également porte-parole de la Côte 2020, coalition qui regroupe plusieurs formations d'opposition en Centrafrique. Deux journalistes sont avec nous, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré à Cotonou, et Berdi Pambou, journaliste indépendant à Brazzaville au Congo. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur nos sites internet africaradio.com et bbcafrique.com, et nous faire part de vos avis et commentaires sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Nous allons rester encore quelques instants sur la Centrafrique et poursuivre notre débat avec notre invité. Monsieur Tiangaï, donc pour vous, le parti de Anissé Georges Dologuélé reste membre de la COD et maintient également son retrait du processus électoral. Peut-être d'ici le week-end, au moment où nous diffusons l'émission, l'URCA aura une nouvelle fois l'occasion de bien clarifier sa position, puisqu'il semble que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais si jamais l'URCA se retirait réellement de la Côte 2020, ou alors décidait de maintenir sa participation aux élections à venir, c'est-à-dire au second tour, est-ce que cela n'affaiblirait pas votre plateforme?
Vous savez, notre plateforme travaille sur la base d'un certain nombre de principes et de valeurs républicaines. Je pense qu'on ne force pas quelqu'un à rester dans une coalition. Donc, chaque parti est libre de prendre la décision qu'elle juge conforme à ses intérêts, mais cela doit être compatible avec la charte qui nous régit. Pour l'instant, nous disons que l'URCA est encore membre de la COD 2020 et que nous travaillons en parfaite symbiose. Nous aurons une réunion de la conférence des présidents demain et l'URCA sera présente, n'est-ce pas, à cette réunion de la conférence des présidents.
Mais quel sera le poids politique, quel sera le poids de la COD en cas du retrait, en cas de retrait de la COD de l'URCA, qui est quand même le parti pilier, sinon le plus important de la Côte 2020?
Vous parlez de retrait. Qui a décidé du retrait de l'URCA?
Le débat se pose. Je viens de vous lire les lignes du communiqué attribué à l'URCA.
Sur des hypothèses invraisemblables. Je vous dis que nous sommes régis par une charte. Tout parti politique qui veut rester dans la charte, il reste en respectant les règles du jeu, les règles qui sont fixées par la charte. Et tout parti politique qui veut quitter peut le faire à sa guise. Aujourd'hui, l'URCA n'a jamais manifesté l'intention de quitter la COD 2020. Donc nous ne pouvons pas parler d'une hypothèse qui n'est pas plausible.
Mais qui a le plus à perdre en cas de...
L'URCA veut se retirer. Il y a des organes qui sont habilités au niveau de ce parti-là pour engager le parti sur la question de son maintien ou de son retrait. Mais nous n'en sommes pas encore là, madame.
D'accord. Et qui a le plus à perdre en cas de boycott du second tour? Est-ce que finalement, ce n'est pas quand même le parti de M. Dologuélé qui a encore 47 candidats en lice pour les élections partielles à venir? Donc, qui va aussi madame, sceller le sort de M. Dologuélé lui-même, contrairement à vous, qui avez déjà perdu dès le premier tour?
Madame, je vais vous dire une chose. Vous parlez de perdre au premier tour, etc. Il s'agissait d'élections crédibles, transparentes et apaisées.
Le parti je ne commente pas la façon dont les élections sont déroulées, mais je parle des résultats qui ont été rendus officiels par l'ANE et confirmés par la Cour constitutionnelle.
Des résultats fraudulés, je dis que même l'URCA n'a rien gagné dans ces élections, parce que l'URCA a, dans la législature actuelle, je crois, 13 députés. Aujourd'hui, l'UFCA a
donc deux ont été élus dès le premier tour et trois sont en ballotage favorable pour le second.
C'est pas favorable, madame, c'est tout à fait le contraire. Je connais la situation mieux que vous. L'UFCA, en présentant 114 candidats, n'a eu que deux élus au premier tour et trois qui vont aller au deuxième tour.
Oui, mais en ballotage favorable, c'est ce que dit...
Madame,
oui.
Non, pas du tout. Pas du tout, madame. Je vous parle de ce que je sais. Dans toutes les circonscriptions, ce sont les candidats de l'URS, de MCU, le parti présidentiel, qui sont en ballotage favorable. Ils ne sont pas en ballotage favorable, ils sont opposés, dans la plupart des cas, à des soi-disant indépendants, mais en réalité, ce sont des indépendants encartés MCU.
D'accord. En tout cas, dès le premier tour, le MCU a eu 5 députés.
Qui a 13 candidats, 13 députés aujourd'hui, n'a aucune chance, je ne me mets pas à leur place, il n'aura aucune chance d'avoir le même nombre de députés si on va dans les conditions de tricherie que nous vivons actuellement.
D'accord.
Puisque, en réalité, nous nous acheminons vers une assemblée monocolore composée uniquement
des députés du MCU.
Du MCU avec leurs affiliés. La question, c'est une question de choix politique. Est-ce que nous voulons aller dans une assemblée monocolore pour être des faire-valoir où on va prendre des lois liberticides? C'est une question de foi politique et de courage politique.
Alors, M. Tianga, est-ce que vous pouvez revenir en quelques mots à ma question? Alors, qui a le plus à perdre, donc, en cas de boycott du second tour, du retrait de la COP 2020, comme elle a annoncé?
Madame, ce qu'il y a dans une élection, ce ne sont pas des individus qui doivent perdre ou gagner. C'est le peuple qui doit perdre ou gagner, c'est la démocratie qui doit perdre ou gagner. Nous n'allons pas dans des élections frauduleuses où il y a des tricheries pour dire que quelqu'un a gagné ou que quelqu'un a perdu. Si nous allons dans nos élections dans les conditions de fraude massive que nous avons dénoncées ou que 346 candidats avaient dénoncé devant la Cour constitutionnelle, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes organes, qui ont tout mis en œuvre pour falsifier les résultats, et nous aurons des résultats qui ne seront pas conformes
Merci. À
la volonté du peuple centrafricain. Donc nous avons fait un choix politique, parce que nous respectons des valeurs républicaines, nous défendons des principes démocratiques. Donc ce n'est pas une question de dire quel parti va gagner ou va perdre,
Merci. Quels
individus vont gagner ou qui vont perdre. La question de savoir, est-ce que c'est le peuple centrafricain qui va gagner dans des élections frauduleuses. Nous disons non et nous prenons nos responsabilités. C'est une question de courage,
Merci. Politique
et de choix politique.
Merci, Maître Tiangaï.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Merci d'être à l'écoute du débat BBC Afrique Africa Radio avec notre grand témoin cette semaine, Maître Nicolas Tiangaï, ancien Premier ministre centrafricain, premier président de la Convention républicaine pour le progrès social et porte-parole de l'accord 2020, coalition de partis politiques d'opposition en Centrafrique. Journaliste invité, Berdi et Pambou, journaliste indépendant congolais, il est à Brazzaville et en ligne de Cotonou au Bénin, à Kilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré. Et nous allons poursuivre avec notre second sujet et c'est le Congo où l'Église catholique s'invite au débat marqué par la présidentielle, au débat politique marqué par la présidentielle du 21 mars prochain. Les évêques réunis en assemblée plénière fin janvier ont décidé de prendre la parole. Dans un message daté du 2 février, ils émettent de sérieuses réserves sur la prochaine présidentielle. Elle évoque notamment cette conférence des évêques, évoque notamment le caractère apaisé, participatif, ainsi que la question de la transparence et de la crédibilité du scrutin. Je commence avec vous, Berdi, qui est à Brazzaville. Berdi, vous êtes là? Ah oui, Berdi, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute sans problème.
Pourquoi la prise de position des évêques congolais a été autant relayée sur les réseaux sociaux? Elle suscite aussi beaucoup de réactions au niveau de la classe politique, y compris évidemment celle du pouvoir.
Déjà pour commencer, les évêques, en tant que citoyens, en tant que congolais, ils ont réagi, ils ont fait une sortie médiatique.
Et dans leurs propos, on peut entendre encore lire les évêques revenir sur la situation actuelle du pays, citer un peu les mots du pays. Et c'est normal, parce qu'on est dans une période un peu préélectorale. Et ils ont eu comme, en tout cas, officiellement, réponse, la sortie aussi médiatique du
monsieur... Du porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala.
Qui a répondu tout en admettant que oui, c'est normal que les évêques puissent parler parce que ce sont des Congolais, mais ils n'ont pas incité, c'est ce qu'a dit Thierry Mungala, ils n'ont pas incité parce que le gouvernement fait des efforts aussi pour que l'élection
provinciale... Mais il s'est tout de même étonné du moment auquel les évêques prennent la parole et aussi de la forme en dénonçant un peu ce qu'il appelait la brutalité de certaines affirmations des évêques.
C'est ce qu'a dit le ministre de la Communication, Thierry Léa Mungala. Et lui, il s'est étonné du moment et de la brutalité des propos. En tout cas, c'est ce que lui, il pense. Mais il faut se rappeler, il a admis que ce sont des Congolais et c'est normal qu'ils puissent émettre leurs pensées. Peut-être qu'il y a eu des inquiétudes, il s'est inquiété un peu par rapport à la période.
Pourquoi il y a justement beaucoup de commentaires autour concernant ces réactions des évêques pourtant, je veux dire, il y avait déjà la classe politique qui relevait déjà des problèmes similaires relatifs au fichier électoral, au dialogue national inclusif que voulait aussi l'opposition. En somme, il semble bien que les évêques n'ont rien dit qui n'était déjà connu des autorités congolaises.
Bon, le débat, hormis la fortune des évêques et celui du gouvernement, sur les médias ici, le débat n'est pas encore vraiment lancé. C'est vrai qu'il y a des médias qui cherchent à organiser des débats sur le sujet. Mais sur les réseaux sociaux aussi, il y a des partisans du parti au pouvoir qui se lancent les pistes. Mais comme vous avez bien su le dire, le problème qu'il y a ici à longtemps, les évêques n'ont fait que rappeler que déjà les autres partis politiques, en tout cas la société civile, ont eu à demander auprès du gouvernement. Bon, il faut aussi noter que le gouvernement, comme je le disais tout à l'heure, par le biais de porte-parole, a tenu à rassurer l'opinion congolaise que tout va se passer normalement, parce qu'on peut entendre ou lire dans les propos des évêques l'inquiétude de retomber sur les mêmes problèmes. Je sais qu'ils ont dit les mêmes effets produits, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Et comment est-ce que les Congolais ont accueilli cette déclaration? Vous, quand vous avez discuté avec vos compatriotes, qu'est-ce qui ressort de leurs propos concernant cette sortie des évêques congolais? Même si on a eu quelques retours sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, on peut lire, hein. C'est surtout des partisans, en fait, des militants de partis pouvant qui réagissent. Et mais comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de nos rues, en fait, au niveau de Brazzaville ici, le débat n'est pas vraiment encore lancé. C'est vrai que la sortie médiatique des évêques a fait des remous, mais bon. Le ministre a répondu, on s'attend à ce que les télévisions locales les journaux locaux puissent lancer le débat, qu'on puisse voir.
Merci beaucoup. Est-ce que notre confrère du Bénin, Akilou, vous êtes là?
Oui, je suis là, madame.
Oui, Akilou, comment avez-vous accueilli cette sortie des évêques congolais? On sait aussi qu'à un moment, chez vous au Bénin, l'Église catholique s'est également exprimée sur le processus électoral. Mais pour ce qui est de ce qu'ont déclaré les évêques congolais concernant un certain nombre de dysfonctionnements, d'après eux, avant la présidentielle du 21 mars prochain, est-ce que vous vous dites ils ont pointé véritablement là où ça fait le plus mal ou finalement c'est une sortie qu'il faut considérer comme un coup d'épée dans l'eau?
Non, en fait, c'est une sortie opportune, puisque cette sortie-là amènera certainement le pouvoir à revoir peut-être certaines choses qui ont été dénoncées ou bien énoncées à travers ces critiques-là. Donc, parce que dès que les évêques sortent, il y a certainement une foule qui croit en ces évêques-là. Et les mots qui ont été évoqués, ce sont des mots déjà connus. Donc, si ces évêques-là les évoquent à nouveau, ça veut dire qu'il y a un certain intérêt à ce niveau-là pour maintenant, il revient au gouvernement de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là.
Et vous y croyez, quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, je suppose que vous l'avez vous aussi écouté, est-ce que vous aviez le sentiment, est-ce que dans ses propos, vous avez perçu comme une volonté de corriger certains de ces aspects pointés par l'épiscopat?
Oui, en fait, c'est souvent difficile du côté du gouvernement de connaître les critiques. Mais on essaie de voiler et c'est dans la suite du processus qu'on essaie de voir des changements. Maintenant, bon, il reste à savoir si dans la suite du processus, il y aura quelques corrections en fonction des critiques qui ont été émises de la part des évêques.
Merci.
Voilà un peu.
Merci. Monsieur Tchangaï? Allô, Monsieur Tchangaï?
Oui, je vous entends. Oui.
Comment avez-vous accueilli cette déclaration des évêques faite à quelques mois des élections présidentielles au Congo, où le président Sassou est encore candidat, les évêques qui s'inquiètent du manque d'alternance et qui souhaitent aussi un mandat renouvelable une seule fois?
Bon, écoutez, vous savez, l'Église catholique, dans la plupart de nos États en Afrique, prend position. Hein, donc, la conférence épiscopale du Congo a fait une réflexion, a émis son avis sur les prochaines élections présidentielles au Congo. Je ne pense pas comme vous qu'il s'agit de foutre d'épée dans l'eau, puisque les évêques congolais sont... des Congolais aussi, ce sont des citoyens congolais qui ont leur avis à donner. Je pense que ce qu'ils ont dit, c'est une contribution pour l'ancrage de la démocratie au Congo. Et je pense que le gouvernement congolais ne pourra pas prendre avec mépris les conseils et les avis de l'épiscopat congolais et retirera ce qui peut permettre de faire avancer la démocratie au Congo.
Et vous, quand vous parlez de la sortie des évêques, vous semblez dire que ces évêques sont dans leur rôle. Est-ce que cela signifie que pour vous, en Centrafrique, vous souhaiteriez, par exemple, que la conférence épiscopale centrafricaine aille plus loin, même si on a souvent l'habitude de les entendre, peut-être aussi à travers la voix du cardinal Zapalenga? Est-ce que vous pensez que l'Église catholique centrafricaine devrait peut-être aller aussi plus loin et se prononcer de manière claire et aussi sans équivoque sur l'élection en cours, comme l'a fait la conférence épiscopale congolaise?
Mais l'Église catholique, à travers l'épiscopat, est une force morale. Donc, je n'ai pas à formuler des jugements de valeur sur leurs opinions ou sur leurs avis, mais je dis qu'en tant que force morale, ils peuvent donner des conseils qui pourront aider le gouvernement à aller dans le sens de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans nos pays.
Merci. Est-ce que notre confrère est là, Berdi?
Oui.
La ligne n'est pas très claire avec vous. Il me semble que peut-être vous êtes éloigné de votre téléphone parce qu'on vous entend très loin, me signale-t-on aussi du côté de la technique. Et c'est ce que je ressens aussi en vous écoutant, Berdi. Si vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone. Alors, est-ce que vous pensez que l'appel des évêques peut avoir l'effet escompté sur les autorités? Est-ce que ces autorités peuvent entreprendre peut-être des réformes, ou quelques-unes au moins, d'ici la tenue du scrutin, afin d'améliorer la transparence et la crédibilité du processus, comme le souhaitent les évêques?
Non, mais comme je crois que vous avez écouté la sortie médiatique du ministre porte-parole du gouvernement. Lui, il a rassuré les Congolais, tout comme les évêques, que tout est mis au point, que le gouvernement fait de son mieux à ce qu'il ne puisse pas avoir manquement lors de ces, lors de la présidentielle prévue le 21 mars. Donc, oui, donc, pour dire que s'il répond comme ça, en quelque sorte, ça veut dire que la réponse des évêques a eu, la sortie des évêques plutôt a eu une réponse. Parce que lui, il rassure les Congolais, il dit aux évêques de ne pas s'inquiéter que tout ça sera bien. C'est ce que dit le ministre chargé, le ministre des médias, porte-parole du gouvernement.
Thierry Mungala. Donc, vous pensez qu'il y aura des changements qui vont être effectués?
Non, mais c'est le ministre Thierry Mungala qui a rassuré.
Oui, il l'a dit, mais je vous demande votre opinion en tant que journaliste qui connaissait bien la situation politique de votre pays. Est-ce que cela va exercer, va peut-être mettre la pression et avoir peut-être de l'effet sur les autorités congolaises? C'est-à-dire, au-delà de ce qu'a dit M. Thierry Mungala, est-ce qu'elles peuvent effectivement changer les dysfonctionnements dénoncés par les évêques?
Mais déjà, au Congo, le processus est lancé. Les candidats déclarés, ils ont commencé à déposer leur candidature depuis quelques jours. Et on sait tous que le gouvernement tient à ce que l'élection puisse avoir lieu en mars prochain. Donc, si le gouvernement tient à cela, le président de la Commission nationale électorale indépendante, M. Henri Boka, le ministre
qui est contesté par l'opposition.
Le ministre de l'Intérieur, Jean Boulot, ils ont dit qu'ils ont lancé le processus de recensement, donc c'est-à-dire les révisions plutôt de liste électorale, qu'on pourrait dire que tout est OK, donc on va à l'élection présidentielle en mars prochain.
Mais au-delà de ces critiques hein, des évêques congolais, Berdi, est-ce que cette élection vous paraît inclusive? Il y a déjà plusieurs défections, dont celle du chef de file de l'opposition, Tati Mabiala.
C'est vrai que le plus grand parti du Congo ne va pas aller à cette élection, mais cela ne veut pas dire, en fait, à mon avis, ça ne veut pas dire qu'on doit annuler l'élection parce qu'il n'y a pas le chef de file de l'opposition. Il y a plusieurs partis qui participent. Il y a le parti de Yuki Ibiash, le parti de Kolela, il y a Mathias Ndion qui part aussi, et il y a plusieurs candidats qui ont annoncé leur candidature. Au moment où il y a des candidats et que les conditions sont réunies pour que l'élection puisse avoir lieu, ben, il faut respecter les lois, les tests.
Merci Berdi, on va marquer une pause pour le dernier sujet.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Et cette semaine, l'ancien Premier ministre centrafricain, Maître Nicolas Tiangaï, est notre invité. Il est également président de parti et porte-parole de la COD 2020, la coalition de plusieurs partis d'opposition centrafricaine. Et deux journalistes sont avec nous, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien béninois, le Béninois Libéré. Il est à Cotonou, au Bénin, et à Brazzaville, au Congo, Berdi Pambou, journaliste indépendant. Le débat BBC Africa Radio est à suivre plus tard sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et venez ensuite nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Partagez vos réactions avec nous sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Et nous partons au Bénin à présent. 20 dossiers de candidature ont été déposé à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, à l'issue de la date limite jeudi soir. La présidentielle est prévue le 11 avril 2021. Si certains candidats déclarés sont connus des Béninois, d'autres le sont moins. Et on commence avec vous, Akilou. Qui sont ces candidats qui ont déclaré leur intention de diriger le Bénin? On parle de 20 candidats plus précisément. En dehors du président sortant Patrice Talon, qu'on connaît parfaitement parce qu'il est au pouvoir depuis 5 ans, pouvez-vous nous dire qui sont les 19 autres adversaires possibles du président sortant?
Oui, au niveau en dehors du président qui est connu, on a au niveau de l'opposition, il y a l'ancien parti de l'ancien président Boni Yayi, FCDE, qui va là-bas avec son candidat, Soumanou Diemba. C'est pour la FC de Force Corée pour un Bénin émergent, l'ancien parti de l'ancien président Boni Yayi.
D'accord. C'est-à-dire l'autre branche dissidente qui était aux élections législatives.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, ils ont leur candidat. Et maintenant, pour les démocrates, on a Madame Rekiat Maldougou avec un policier du nom de Patrick Diva.
Donc, précisons que les démocrates étant le nouveau parti créé par l'ancien président Boni Yayi qui a quitté le FCBE dont il est le fondateur.
Oui. Il est le président d'honneur en fait des démocrates. Donc en dehors des démocrates, on a le front de restauration de la démocratie auquel appartient appartenaient les démocrates. Donc c'est ce front-là qui devait désigner un duo pour ces élections. Mais il s'est fait qu'à la dernière minute, il y a eu des dissidences et puis il y a eu les démocrates se sont retirés. Ils ont présenté leur candidat. Maintenant, le reste du front a décidé aussi de présenter un candidat. Donc un duo, je dirais, en la personne du professeur de droit Aïva.
Joël.
Joël Aïva, avec un policier du nom du fils de l'ancien président Mathieu Kérékou, Moïse Kérékou. Voilà. Donc ce sont ceux qui sont connus, on peut dire. En dehors de, il y en a qui ont déposé leur candidat solitairement, sans un duo. Ils sont seuls à avoir déposé.
Donc ils n'ont pas eu de colistier ou de colistière.
Non. Oui, ils sont un nombre de 5 sur les 20, ils sont 5 à avoir déposé comme ça.
Au-delà de cet aspect de colistier ou de colistière, vice-présent ou pas, l'autre difficulté, c'est bien l'affaire des parrainages pour plusieurs partis.
Justement, j'en venais à ce niveau-là, puisqu'il y a eu un premier point qui a été fait par la Sénat, ça veut dire la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, qui a démontré qu'au niveau de la mouvance, du candidat Patrice Talon, il a réuni 118 parrainages. L'autre branche, l'AFCBE, a réuni 20. Donc, ce qui fait un total de 138. Donc, il ne reste que 22. 22 pour 18 autres candidats. Vous voyez, il y a déjà un problème. Or, le minimum qu'il faut pour ces élections, c'est 16. Donc, ça veut dire que même s'il devait y avoir, on n'aurait que 3 candidats pour ces élections. Voilà le problème où on en est.
Donc,
les démocrates ont déposé sans parrainage.
Donc, c'est dire qu'à l'issue du processus d'examen des candidatures, peut-être Patrice Talon pourrait se retrouver sans adversaire. Et même s'il en a, est-ce que ses adversaires sont susceptibles de vraiment constituer de vrais adversaires pour lui?
On saurait le dire. Mais il ne pourra pas être seul. Puisqu'il y aura la FCB qui a déjà un total de 20 parrainages. À moins qu'il y ait d'autres soucis au niveau de l'étude des dossiers, il ne sera pas seul pour ces élections-là.
Merci.
Maintenant, c'est la FCB qui va représenter l'opposition. Est-ce que les autres se retrouvent à travers la FCB? Puisqu'elle a été toujours soupçonnée d'être...
alliée, c'est-à-dire le FCB dissident, on peut dire.
Voilà. Oui, c'est ça. Donc, elle a été... soupçonner d'être proche du pouvoir en place.
D'être allié du pouvoir. Ce soupçon, pouvoir, justement, qui justifiait la démission de départ de l'ancien président Boni Yayi de ce parti pour créer les démocrates.
Justement.
Je voudrais donner la parole à notre invité, pour M. Tiangaï, pour donner un avis général sur les candidatures à la candidature déclarée, on va dire, à la prochaine présidentielle au Bénin. Vous venez d'écouter notre confrère nous donner un peu le tableau de ce qui se passe. Je ne sais pas s'il nous entend. Est-ce que Berdi est là? Quel est votre commentaire sur cette liste de candidats déclarés à la présidentielle au Bénin, avec tout le mal qu'ils éprouvent à compléter leur dossier? Pour certains.
La situation au Bénin, elle est très compliquée pour les candidats déclarés, justement parce qu'il y a cette affaire de parrainage. Depuis quelques années, le président Patrice Talon a modifié la constitution et en quelque sorte, il a verrouillé quelques points. Donc aujourd'hui, pour être candidat, il faut avoir les parrainages. Donc, on sait tous que la majorité des députés, donc les parrainages, c'est ce qu'il faut, donc les députés, les conseillers et tout. Et la majorité, ils sont très proches du pouvoir s'ils ne sont pas du pouvoir. Donc, ce qui inquiète de plus d'un, savoir que, comme vous avez dit tout à l'heure, hein, on risque de voir le président Talon aller seul, ou sans opposition et tout, mais bon, notre confrère du Bénin nous confirme, en fait, il est plus ou moins certain qu'il va avoir au moins qu'un opposant, à moins qu'il puisse avoir des problèmes. Mais ce qui est vrai, c'était vraiment un grand verrou que se pose au niveau de la candidature avec cette affaire de parrainage.
Merci. En quelques mots, Monsieur Tianga, vous avez perdu et le temps s'est égrené, hélas, sur cette candidature déposée et dont l'opposition a été clôturée au Bénin jeudi soir pour la présidentielle.
Oui, je vous suis. Bon, j'ai deux remarques à faire. La première, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de partis n'étaient pas préparés, puisque à la dernière minute, il y en a qui n'avaient pas de colistier. Puis ensuite, il y avait le problème de parrainage. Mais c'est pas sur le problème parrainage particulièrement que je peux parler de l'impréparation des autres candidats. Mais je considère que le système de parrainage tel qu'adopté par le système électoral béninois, à mon avis, constitue un élément de...
Un frein
qui ne permettrait pas constitue un frein pour que les autres candidats... C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un déficit d'inclusivité, parce que ça constitue un frein pour d'autres candidats qui ne pourront pas, même s'ils sont crédibles, populaires, recueillir le nombre de parrainages nécessaires pour aller solliciter le suffrage du peuple béninois. Donc, je crois que ce n'est pas une avancée démocratique, l'existence, n'est-ce pas, de ce système de parrainage.
Merci.
Le peuple béninois est un peuple épris de paix, de démocratie et de justice. Je pense que ce système doit être amélioré pour permettre l'inclusivité nécessaire à l'expression du suffrage universel.
Merci beaucoup et c'est le temps d'écouter les réactions et questions de nos auditeurs avec Didier Ladislas Landau.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Centrafrique, archiduc Théodore de N'Djamena estime que l'opposition centrafricaine n'a jamais réussi à s'unir, ce qui a toujours donné l'avantage au parti au pouvoir. De son côté, Théo Mouam demande à notre invité si l'opposition pense aux nombreux centrafricains déplacés à cause des conflits et ce qu'elle fait pour maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Congo-Brazzaville, Ala Kérim Lamana estime que les évêques ont raison de s'inquiéter, car après tant d'années passées au pouvoir, il n'est pas compréhensible que le président Sassou Nguesso veuille encore briguer un autre mandat. Bénin Jean Zounon fait remarquer que depuis quelque temps, l'opposition béninoise n'existe que de nom. Pour lui, c'est inadmissible dans un pays qui était un modèle de démocratie en Afrique. Il appelle l'opposition béninoise à se ressaisir pour éviter un chaos. Merci à Emmanuel Dossouvi qui nous suit depuis Cotonou au Bénin. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/lebatbbcafrique-africaradio et sur Twitter à @debatbbcafrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Merci à vous, Didier Ladislas Landau. Bon week-end. Vous avez 30 secondes, Monsieur le Premier ministre Tiangaï, pour une conclusion générale à cette émission.
Oui, la conclusion, c'est que je voudrais vous remercier pour cette émission qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer sur l'actualité politique africaine. Et en ce qui concerne mon pays qui traverse une période difficile, je pense qu'il n'y a pas de solution en dehors des compromis politiques et en dehors de négociations, de pourparlers politiques et de concertation de toutes les forces vives de la nation.
Merci beaucoup, Maître Nicolas Tiangaï. Vous étiez notre invité cette semaine. Ancien Premier ministre de la République centrafricaine, président de la Convention républicaine pour le progrès social, CRPS, et porte-parole de l'Accord 2020, la coalition qui regroupe plusieurs partis d'opposition en Centrafrique. Merci à vous, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien béninois, le Béninois Libéré, et à Bertie Bambou, journaliste indépendant, à Brazzaville, au Congo. Le débat BBC Afrique Africa Radio est à retrouver sur bbcafrique.com et africaradio.com, et nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Merci à Didier Ladislas Lando qui est le chargé de production de cette émission, et à Hugo Vallière qui était à la mise en onde à Paris. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.